Merci Elisabeth, merci à tous d'être là cet après-midi et merci à Georges de m'avoir invité dans cette prestigieuse institution. Alors on va donc parler du dialogue des ressources et pour commencer, je vais juste faire un tout petit retour en arrière, le géologue aux géosciences. Le géologue, en fait, ça a toujours été une profession très spécialisée. Les géologues, c'était généralement des gens qui allaient sur le terrain, plutôt barbus, parfois avec un âne, un cheval, un marteau, pas très équipés du point de vue de la technologie. Et la réussite du géologue, c'était fondamentalement de trouver un gisement. Donc, un gisement, qu'il soit économique ou pas, d'ailleurs, ce n'était pas forcément très important, mais il fallait trouver une concentration minérale, et donc on était intéressés. À l'époque, on se remonte là, peut-être il y a 50 ans, la géologie était une science analogique, hein, ça ressemblait un petit peu à la classification des nuages. Alors donc, il y a les stratus, les cumulus, et puis nous, on avait la même chose. On avait des classifications de gisements qui permettaient de se situer dans la géologie. On opposait à ce moment-là et très tôt les volets géologie de terrain, ceux qui travaillent vraiment, et les métallogénistes, ces doux rêveurs qui donc imaginaient les gisements du futur. Le géologue des ressources était d'ailleurs considéré par les mineurs souvent comme un rêveur. Hein. Vous voyez, il n'est plus sur Mars il y a 3 milliards d'années, mais il vaudrait mieux nous dire ce qu'il va falloir sur nos salades cette semaine. C'est la même chose pour les mines, qu'est-ce qu'il va y avoir demain. Donc le géologue, c'est fondamentalement un romancier du paysage. Le géologue fait partie en fait des gens qui doivent répondre à des défis beaucoup plus importants aujourd'hui qui sont liés aux ressources. Et je vais rappeler quelques-uns de ces défis. Ils ont été longuement documentés hier, j'ai juste pris quelques exemples. On est face à 4 transitions. Une transition énergétique, une transition démographique, une transition durable ou de durabilité et une transition géopolitique. La transition énergétique, je ne reviendrai pas là-dessus, on est passé d'une société, dont la métaphore est essentiellement une métaphore biologique, hein, un livre ici composé essentiellement de papier qui vient du bois, d'encre qui vient également de plantes, de reliures, de colle, de gomme arabique, et on est passé à une société essentiellement métallique. C'est relativement surprenant, on est donc passé vraiment du monde agricole, d'une certaine manière, au monde minier. La transition démographique, on a souligné hier largement qu'on avait une augmentation de population, j'ai même vu des extrapolations qui allaient jusqu'à 16 milliards d'habitants. C'est assez clair qu'on a une augmentation considérable de la population qui s'accompagne d'une consommation extrêmement forte des ressources minérales. Et c'est simplement lié au fait que la consommation minérale, c'est simplement, on prend la population, on multiplie par le volume de ce qu'on consomme chacun individuellement et on arrive à la consommation globale. Qu'est-ce qu'on consomme actuellement? Vous avez ici ce qu'on consomme un Européen au cours de sa vie. Vous avez donc le charbon de 66 tonnes, les roches et sables, le minerai de cuivre, une demi-tonne quand même par an, par vie et par personne, 1350 barils de pétrole, même de 60 grammes d'or, hein, 2 onces. Et si on représente aux teneurs actuelles ce que ça représente, ça représente pour chacun un trou de 14 mètres de profondeur, 10 mètres de large, 10 mètres de long. Donc on est tous, vous êtes tous responsables d'un trou de cette taille-là sur la planète. Okay. Et ça, c'est pour une société civilisée, l'Occident. Il faut se rendre compte que nous représentons une petite partie de la population et que le monde, avec ses milliards d'habitants, aspire essentiellement à consommer comme nous. Or, les Indiens, en moyenne, consomment 340 grammes de cuivre par an. Les Chinois consomment 2,6 kilos de cuivre par an. Et les Français, 8 kilos. Or, les Indiens, ils ont envie de vivre comme les Français. Ils aimeraient bien avoir un Collège de France aussi bien équipé que ça. Donc, on a un vrai problème, parce que non seulement la population augmente, mais en plus, la consommation par capita, par personne, augmente de manière très significative. Donc, vous voyez qu'on est face à un mur, là, de « est-ce qu'il y a assez de métaux sur Terre ?» Et la réponse des géologues, c'est généralement oui. C'est un problème non pas de géologie, mais c'est un problème d'économie. Si on y met le prix, on aura ce qu'il faut. La transition durable, on a également un petit peu parlé. Il faut se rendre compte que l'industrie minière, même si ce n'est pas germinal, continue à avoir une image relativement médiocre. Vous avez ici une enquête qui est faite au Canada, donc a priori minier, dans lequel vous avez les différents domaines industriels, depuis l'industrie technologique des ordinateurs, l'électricité, la nourriture, et puis vous avez ceux qui sont en dessous de la moyenne, ceux qui sont dans la moyenne et ceux qui sont vraiment au-dessus. Vous voyez que les mines, le mining, donc on est 4 lignes avant la fin, c'est un petit peu mieux que la chimie, un petit peu mieux que le pétrole et un petit peu mieux que le tabac. Mais enfin, pour le reste, on est vraiment en dessous de tout. Okay, et donc, il y a un vrai problème de performance, mais essentiellement d'évaluation de la performance par le public dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises. Et ça, c'est lié directement au fait qu'on a changé de monde. On était avant sur une des entreprises minières qui était centrée sur elles-mêmes. Elles regardaient essentiellement leur personnel. D'ailleurs, elles avaient beaucoup négocié avec leur personnel. C'est là où sont nés les syndicats dans le monde entier, fondamentalement. Et donc, la mine, c'était une communauté humaine interne. La mine, c'est plus ça. La mine, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus élargi, dans lequel non seulement il y a les gens de l'interne, mais il y a beaucoup les gens de l'externe qui doivent intervenir. Et donc, évidemment, ça pose des problèmes aux compagnies minières, parce que les enjeux sont beaucoup plus larges. Comment pouvoir répondre à ces enjeux-là ? Les enjeux sont également devenus plus complexes. Plus complexes parce qu'on était dans des isolats industriels, miniers, souvent tout seul au milieu de désert, et on est maintenant sur une planète peuplée avec des gens tout autour. La mine n'est plus un isolat. Et non seulement elle n'est plus un isolat, mais elle doit également composer avec d'autres volets qui sont les communautés et qui sont un gouvernement qui se doit de réguler l'activité minière, l'activité des ressources, puisqu'il est redevable à ses électeurs en termes de gestion. Derrière chacun des trois partenaires que vous avez ici, ce qu'on appelle parfois le triangle anthropologique minier, vous avez en fait des groupes internationaux. Vous avez, pour les compagnies minières, par exemple, des agences ou des associations internationales. Vous avez des associations au niveau des gouvernements avec des accords internationaux. On pense au processus de Kimberley, par exemple, pour les diamants, ou aux réglementations pour l'étain qui engagent les gouvernements. Et puis vous avez les communautés qui sont maintenant reliées naturellement aux organisations globales. Je pense en particulier à des organismes comme Mining Watch, organisme qui est né à Vancouver il y a une vingtaine d'années et qui a des émules absolument partout et qui a des collaborations absolument partout et qui se préoccupe d'avoir des mines plus durables, plus acceptables socialement par l'ensemble de la population. C'est devenu donc beaucoup plus compliqué et les compagnies minières ont un petit peu de difficulté à intégrer l'ensemble des critères de responsabilité sociale qu'ils doivent avoir. Vous en avez ici 5. Ils doivent payer des taxes et des impôts, ça va au gouvernement, aux communautés locales. Ils doivent fournir des emplois. Or, ça, c'est exactement l'inverse de la tendance actuelle. Les mines sont de plus en plus mécanisées, automatisées, robotisées, et donc il y a de moins en moins de monde dans les mines. Ils doivent construire des infrastructures, mais à qui appartiennent les infrastructures ? Au gouvernement ou à l'entreprise ? Ils doivent donner des bénéfices sociaux et communautaires, ça c'est quelque chose d'assez classique, je dirais, c'est le patronage assez classique, et ils doivent évidemment respecter l'environnement. Donc on est sur un ensemble de défis que les entreprises ont, certains ils ont l'habitude, hein, respect de l'environnement, je dirais que c'est devenu une norme quand même depuis au moins une vingtaine d'années, mais d'autres sont beaucoup plus complexes à avoir. L'autre point qui vient à se développer, c'est la position de l'industrie minière dans la vaste industrie des métaux. Vous avez ici un cycle des métaux, de l'exploration, l'exploitation, la concentration, la métallurgie, mais ce n'est pas fini. Ça continue évidemment ensuite dans le design, la fabrication, l'utilisation de produits métalliques, leur élimination éventuellement sous forme de déchets, avec une boucle de réutilisation, de recyclage à différents niveaux. Et éventuellement, tout ceci est alimenté par une demande sociétale pour les métaux et les minéraux. Et les enjeux sont globaux. Or, l'industrie métallurgique, l'industrie extractive, ne représente qu'une partie de cette activité-là. Donc on a un problème de structuration sociale. Les entreprises ne couvrent qu'une petite partie du cycle. Elles sont divisées. Parfois, les gens qui font l'exploration ne sont pas les gens qui font l'exploitation. Les gens qui font l'exploitation ne sont pas ceux qui vont faire le recyclage. Et donc, on a un problème là, de dimensionnement des entreprises qui sont généralement trop petites et donc irresponsables, puisqu'elles ne connaissent pas tout le cycle minier. Le dernier élément, la transition géopolitique. Là, vous avez un Barack Obama qui fréquente du beau monde. Et le problème de la transition géopolitique, c'est évidemment l'arrivée des pays asiatiques. Là, on l'a beaucoup souligné. 50% des grues en Chine. Okay, donc, et vous avez les prises de participation chinoises dans l'industrie minérale mondiale depuis dans les années 2010. Okay. Vous voyez qu'en 2004, les points rouges expriment les entreprises que les Chinois ont achetées. Vous voyez qu'en 2009, ils sont déjà bien positionnés en Australie, en Asie, en Afrique australe. Et en 2010, vous voyez qu'ils sont absolument partout dans le monde. Ils occupent évidemment, il n'y a plus assez de place sur l'Australie pour mettre les points des entreprises chinoises. Évidemment, ils sont extrêmement présents. Très récemment, au Québec, la seule mine de niobium qu'on avait était rachetée par les Chinois il y a exactement un mois et demi. Okay. Donc on est dans une phase où la Chine souhaite évidemment permettre à sa population d'avoir un niveau de vie meilleur, d'avoir donc des ressources minérales. Elle n'en a pas assez chez elle. Elle en importe, elle en achète, mais évidemment, elle va avoir le souci de contrôler l'ensemble de la chaîne, depuis la production jusqu'à la consommation. Alors ça, c'est un vrai enjeu géopolitique. Vous avez sur le petit diagramme à gauche, vous avez également les recrutements des scientifiques chinois dans les universités. Vous avez des millions de personnes, hein, 7 en 30 millions. Donc vous voyez qu'en gros, le nombre d'étudiants chinois, on était à moins d'une dizaine de millions, on est à plus d'une trentaine de millions. Pendant une grande phase, ils sont venus étudier dans nos universités, en Europe et en Amérique du Nord. Et ils vont le faire de moins en moins parce que maintenant, ils ont ce qu'il faut chez eux. Et donc, évidemment, ils développent des compétences de plus en plus affirmées. C'est très bien. L'humanité ne peut que s'en réjouir. Derrière la Chine, on l'a évoqué ce matin, il y a l'Afrique. Il y a l'Afrique qui sera donc un tiers de la population en 2100. Une population avec un très fort taux de croissance, évidemment, et des ressources minérales qui sont très clairement sous-évaluées, sous-exploitées, et dans lesquelles le retour, je dirais, financier n'a pas été toujours à la hauteur des espérances que les Africains pouvaient avoir. Donc on est vraiment sur un monde en train de changer, une position des pays qui étaient les pays dominants du XXe siècle dans une position tout à fait différente. Alors qu'est-ce que ça change pour le géologue ? Eh bien, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a des permanences et il y a des modifications. Le géologue, fondamentalement, il fait deux choses. Il observe et il imagine. C'est un naturaliste au démarrage. Il va se préoccuper de la réalité de terrain et il va ensuite imaginer. Alors, la réalité de terrain, c'est une vieille expertise. Vous reconnaissez très clairement des géologues de la fin du XIXe siècle qui sont caractérisés par un chapeau et une barbe. Et mes étudiants ont presque tous un chapeau et une barbe, donc ça n'a pas vraiment changé. Voilà. Et ils font du terrain avec leur marteau. On est à la Columbia School of Mines. Les grandes universités américaines sont nées d'écoles des mines, fondamentalement, y compris Columbia, y compris les universités de la côte ouest américaine. Et dès 1930, on commence à s'inquiéter pour est-ce qu'on va faire du terrain sérieusement. Charles Park, qui est un géologue assez célèbre, se dit est-ce que la géologie de terrain est un travail obsolète. Alors, il est très inquiet. En fait, c'est jamais devenu obsolète, parce que les géologues d'aujourd'hui, vous avez ici quelques-uns de mes étudiants, plutôt de mes étudiantes, d'ailleurs, eh bien, vous voyez qu'ils font toujours du terrain absolument pareil. Donc, le travail de terrain reste une nécessité. Contrairement à ce qu'on peut croire, une carte géologique, quand elle est finie, eh bien, elle est refaire, okay, parce que les concepts changent. Et les concepts changent parce que les faits ont changé. Et le deuxième élément, c'est que le terrain lui-même a changé. Le terrain, on voyait la surface. De plus en plus, on voit un terrain en profondeur. Vous avez ici les forages qui montrent des découvertes minières d'or, des métaux de base, donc du cuivre, du zinc, du plomb, de l'uranium ou d'autres substances. Et vous avez l'évolution depuis 1920 jusqu'à 2010. Et vous voyez très clairement que les découvertes minières qui étaient seulement en surface dans la première moitié du XXe siècle sont maintenant atteignent des profondeurs jusqu'à 600 mètres, 700 mètres. On découvre des mines, on explore des mines jusqu'à presque 3000 mètres actuellement. La mine la plus profonde du monde est aux alentours de 4000 mètres en Afrique du Sud. Donc, l'être humain, eh bien, il va trouver ses ressources non plus seulement sur ce qu'il va trouver en surface, mais il va les trouver dans ces 4000 mètres de surface. Et John Loddon soulignait ce matin qu'effectivement, il faut appréhender le milieu géologique maintenant dans sa troisième dimension, dans son côté vertical de plus en plus net. La mine québécoise la plus profonde actuellement est à 2650 mètres de profondeur. Le terrain également change parce que les méthodes qu'on a d'observation du terrain ont changé. Je me rappelle très bien avoir participé à un programme géologie profonde de la France il y a quelques années, quelques dizaines d'années, dans lequel on allait faire un forage à 2-3 000 mètres en France. Aujourd'hui, le nombre de forages s'est multiplié de manière absolument considérable. Vous avez ici des batteries de forage. Pour trouver un gisement, on va faire 1 000, 2 000 forages. Okay. Et les forages s'augmentent de plus en plus et leurs coûts baissent de plus en plus. Vous avez en bas à gauche un prototype de foreuse, qui est une foreuse de type pétrolier, mais appliquée aux mines. Une foreuse qui va être capable de forer 1 000 mètres par jour, avec un coût inférieur de moitié aux foreuses actuelles. Ça, c'est développé actuellement par Longueur et un consortium d'universités australiennes. Ça va absolument révolutionner la manière de faire. C'est très léger, vous voyez que c'est sur chenillette. L'impact environnemental va être extrêmement faible. Les coûts vont être plus bas. On a vraiment une révolution, là, une révolution technologique qui va modifier notre approche du terrain. Toujours dans ces innovations révolutionnaires, il est clair aussi que tous les mécanismes analytiques ont changé. Maintenant, je ne pense pas qu'on peut faire d'exploration minière moderne sans avoir l'instrument qui se trouve à gauche, là, qui est un appareil XRF portable qui permet d'avoir des analyses précises de manière immédiate. Okay, on n'entend plus. Avant, on prenait un échantillon, on mettait dans un sac en plastique, on envoyait ça gentiment dans un laboratoire qui, un mois, deux mois, six mois après, vous donnait un résultat analytique. Donc, en gros, on perdait un an. Là, l'analyse, c'est immédiat. Et donc, ça permet effectivement d'avoir une approche de l'exploration minière, de la géologie, très, très différente. On voit ce qu'on ne voyait pas avant. De la même manière, alors qu'on a fait pendant très longtemps des forages carottés, parce qu'on avait besoin d'accès aux forages carottés, les techniques maintenant se rapprochent des techniques pétrolières. On va avoir des échantillons qui sont en poudre, dans lesquels on récupérera des minéraux, et les minéraux eux-mêmes vont être indicateurs de la géologie. Là, on voit le retour de la minéralogie. Georges est là, donc c'est le moment d'en parler. C'est un domaine disciplinaire qui revient d'actualité. Les universités avaient fait disparaître leurs minéralogistes pendant très longtemps, parce que ça ne servait plus à rien. Je vous annonce un retour des minéralogistes dans les années qui viennent, parce que nos échantillons seront beaucoup plus petits, ils seront en poudre, et on aura besoin à la fois de l'instrument de gauche et de la minéralogie à droite. Alors ça, c'était l'observation. Vous voyez qu'elle a complètement changé, elle a changé de dimension. Mais l'imagination aussi a changé. Notre imagination, en fait, elle est beaucoup influencée par ce que l'on voit. Pensez au voyage que vous avez fait. Vous connaissez des paysages absolument multiples. Vous avez maintenant une imagination du monde qui n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait avoir dans les années 50, dans lequel le monde apparaissait en noir et blanc dans des écrans de télévision et dans lequel on ne connaissait pas le monde. Okay ? Il n'y avait pas un numéro de Géo tous les mois là, pour vous décrire le monde tel qu'il est. Et donc, on n'avait pas également les outils informatiques qui nous permettent de voir en trois dimensions. Vous avez ici deux reconstitutions, un gisement du nord du Québec et un gisement du nord du Saskatchewan qui appartient à Areva. Et vous voyez que maintenant, on peut se promener autour des gisements en trois dimensions. C'est la même révolution qu'ont connue la médecine quand on est passé des endroits qu'on disséquait, donc forcément post-mortem, voilà, à des échographies de plus en plus précises. On a des échographies du monde géologique en temps réel et on peut mieux comprendre maintenant les dimensions. Et une fois qu'on a les échographies, eh bien, on peut simuler et on peut faire des simulateurs. À droite, vous avez ici un simulateur qui se trouve à Sudbury, en Ontario, dans lequel eh bien, la mine existe de manière virtuelle avant d'être une mine réelle. De la même manière qu'on ne confie pas un 747 à un apprenti pilote, on ne confie plus une mine à un apprenti mineur. On va maintenant exploiter la mine de manière virtuelle avec des simulateurs de mine. Et ça, c'est tout un volet qui est en train de se développer, sur lequel on a encore beaucoup de travail à faire, de telle manière à, en temps réel, être capable d'alimenter ces représentations du monde. Donc, quand je pensais à des changements de représentation, vous avez ici une photo de Yann Arthus-Bertrand de Tellings. Okay. Ouais, Tellings, c'est pas beau, ça pollue, mais quand c'est mis comme ça, c'est plutôt joli. Voilà, on voit le monde différemment. On comprend le monde différemment. Alors, une fois qu'on a observé, qu'on a imaginé, eh bien, il faut effectivement intégrer l'ensemble des disciplines. Et là aussi, ça a beaucoup changé. On est capable d'intégrer maintenant l'ensemble des disciplines. Vous avez ici une représentation d'une mine dans laquelle vous avez non seulement les travaux miniers, vous avez les corps à exploiter de différentes couleurs, et tous les petits points que vous voyez là, c'est le séisme. On écoute la mine en temps réel. Autrement dit, c'est comme une auscultation, okay, et on peut savoir où est-ce que ça va craquer. Il y a eu récemment, sur la mine de Bingham Canyon, l'une des plus grosses mines du monde dans l'état de Utah aux États-Unis, il y a eu un effondrement. C'est une mine absolument gigantesque, hein, elle fait presque 1000 mètres de profondeur, zéro mort. Zéro accident, l'effondrement était prévu, on l'avait ausculté la mine en temps réel, on savait où ça allait tomber, quel volume allait tomber, et on a donc pu prévoir la forme de catastrophe qui s'est produite. Okay. Et donc, vous voyez qu'on a une capacité maintenant de faire fusionner les disciplines ensemble. Dernier élément de changement, la manière dont on fait l'exploration. Pendant longtemps, on a cru qu'on partait de très grands territoires, on allait vers des territoires plus petits. Ça, c'est vrai dans un monde vide. C'est vrai fondamentalement dans un monde dans lequel on ne connaît rien sur le territoire, on commence à se documenter à très large échelle et on se resserre. Il y a une de mes étudiantes qui a fait un travail récemment sur la manière dont se font les découvertes. Vous avez ici une série de gisements au Québec qui ont été découverts. Vous avez la phase en jaune, là c'est l'étude de faisabilité, et la phase en violet, c'est la phase d'exploitation. Vous voyez que c'est des gisements qui vont rentrer en exploitation dans les années qui viennent. Eh bien, les dates de découverte pour beaucoup de ces gisements, c'est 1950. En fait, on les a découverts il y a déjà très longtemps. On connaît ces indices-là. On les a travaillés dans une phase de boom minier entre 1950 et 70. Puis là, l'industrie minière s'est mise en sommeil. Le prix des métaux n'était plus là. On les a repris dans les années 1990 et on en a fait des gisements. Autrement dit, on a changé de manière de faire de l'exploration. Alors qu'on avait un paradigme en entonnoir, dans lequel on parlait du général et on allait vers le local, eh bien, de plus en plus, vu qu'on connaît déjà où sont les ressources, eh bien, c'est une opportunité économique. C'est un travail économique qui fait qu'on met en production des gisements. Donc, une évolution beaucoup plus ponctuelle. Donc c'est un vent de changement. On est vraiment dans une phase où la géologie des ressources a connu, comme le disait Elisabeth, une bonne vingtaine d'années de tranquillité, au moins en Europe. Eh bien, elle renaît, mais elle renaît différemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on change la manière dont on a une vision du monde. Alors, quelques éléments. D'abord, c'est qui les géologues des ressources? Essentiellement, c'est à 80% des gens de terrain, c'est à 10% des académiques et c'est à 10% des entrepreneurs. Donc, c'est ça, la population. Les entrepreneurs font plus de technique, ils cherchent des sous, ils managent. Les académiques sont là en support et les gens sont des gens de terrain, essentiellement. Est-ce que c'est mieux d'avoir un géologue ou un entrepreneur financier comme président? Alors, on a fait des statistiques. Donc, on a regardé quels étaient les succès. Et vous avez ici, donc, les gains du prix des actions de compagnies, celles dirigées par des géologues et celles dirigées par des gens qui ne sont pas géologues. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour les géologues. Il vaut mieux être géologue, vous voyez, parce que vous pouvez gagner, non seulement votre moyenne est meilleure, okay, vous avez une moyenne qui est un gain de quelques pourcents, mais surtout, l'écart type en vert, mais surtout, vous pouvez avoir des occasions exceptionnelles de ressources. Donc, vous voyez qu'il y a du travail pour les géologues parce que c'est eux qui font gagner des sous aux entreprises fondamentalement. Donc, pour ceux qui ont des choix de carrière à faire, c'est enfin une carrière tout à fait intéressante. C'est aussi un domaine qui devient plus féminin. Les valeurs masculines étaient prédominantes dans l'industrie minière. Des gros bras, des grosses bottes, okay, des gros chapeaux. C'est pas extraordinaire comme système. Notre société s'est beaucoup féminisée. Et dans le fond, la société exige également une vision plus féminine du monde. C'est vrai pour les géologues également. Et actuellement, on a 60% dans les universités canadiennes de formation pour des femmes géologues. Vous avez ici, dans mon université, les taux de femmes par programme. Alors, vous avez sciences de la Terre et de l'atmosphère, SCTA, c'est le troisième à partir de la droite. Et vous voyez qu'il y a une progression absolument spectaculaire, puisqu'on était, à 5-7% et on est monté à 20%. Donc, on a vraiment un effort. Et quand on parle de valeurs féminines, ça veut dire aussi qu'on parle de valeurs plus respectueuses de l'individu, okay, plus proches de l'humain. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une réalité qui s'observe actuellement dans les entreprises minières. Également, on va vers une professionnalisation de l'individu, de l'exploration. Vous avez ici une photographie en 1926 d'une course au clem, hein. Donc, alors c'est extraordinaire. Là, on annonce qu'on va délivrer un clem. Tout le monde se met à courir. D'ailleurs, il n'y a que des gars là-dedans. Voilà. Et tout le monde court vers là. Donc, pas forcément de compétences, mais ils vont être capables de mettre des poteaux. Ce n'est plus du tout le cas. On est maintenant sur un contexte d'emploi, de métiers qui sont contrôlés par des ordres professionnels. Je suis membre d'un ordre professionnel qui est comparable à l'ordre des médecins. Ils m'inspectent tous les ans. Ils me coûtent une assurance tous les ans. Et ils vérifient que ce que je fais est correct. C'est très sérieux. Il y a des procès. Il y a des gens qui sont ôtés de la profession et qui ne peuvent plus exercer. Donc, effectivement, il y a maintenant un contrôle professionnel qui fait que c'est un véritable métier avec un petit diplôme affiché dans son cabinet. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on a donc de meilleurs professionnels, des professionnels qui sont souvent plus au courant des différents éléments. Est-ce que l'emploi évolue vers positif? L'emploi est directement une fonction du prix des métaux. Quand les métaux vont bien, l'emploi va bien. Quand le prix des métaux va mal, l'emploi va mal. C'est extrêmement clair, c'est documenté. On a des structures qui surveillent ça de manière régulière. Et vous voyez qu'il y a une corrélation assez remarquable entre le taux d'emploi qui est marqué ici en bleu au Canada et le prix des métaux qui est ici marqué en jaune. Ceci dit, ces dernières années, ça allait plutôt bien. Si vous prenez le taux de chômage au Québec en 2013 des techniciens géologues, c'est 0%. Des ingénieurs miniers, c'est 6%. Des ingénieurs métallurgistes, c'est 0%. Et des géologues miniers, c'est également 0%. On a, au Québec, manqué tellement de géologues qu'on a importé entre 25 et 30 Français tous les ans, depuis 10 ans. Donc, juste pour vous montrer qu'il y a vraiment une activité extrêmement importante. Alors, le métier change, cependant. Et il change en fonction, effectivement, de ce que c'est qu'un gisement. Un gisement, je l'ai dit au démarrage, c'était une concentration minérale. Et donc, on avait un géologue. Puis après, on a dit, ben, c'est une concentration minérable, exploitable économiquement. C'est encore la définition que vous verrez dans la plupart des manuels. Alors donc, on a appelé un géologue économiste. Mais maintenant, on sait que la définition, c'est plus tout à fait ça. Un gisement, c'est une concentration minérale exploitable économiquement, est acceptable socialement. Si vous n'avez pas le volet acceptable socialement, ce n'est pas un gisement. Et donc, le géologue, maintenant, ce n'est plus seulement un géologue économiste, mais ça doit être un professionnel qui va au-delà de l'économie, qui va comprendre les autres enjeux. Excusez-moi, je vais prendre ça. Voilà. Alors, on voit bien que le périmètre général des compétences est en train de s'élargir. Vous avez ici deux projets de recherche auxquels j'ai participé, le premier au Canada, le deuxième en France, et on voit l'assemblage des compétences qu'il a fallu construire pour répondre à ces enjeux. Le premier, c'est un indice du risque social. On voulait évaluer quel était le niveau de risque pour les projets miniers à partir des considérations sociales. Pour faire ça, on a besoin de gens de sciences politiques, de gens en communication, en droit, en sciences de la Terre, en sociologie, en économie et en gestion. Deuxième projet de recherche qui préfigure les géologues de l'avenir, c'est le projet Gazouille, c'est le problème du gaz de houille en Lorraine, dans lequel il y a un projet par une compagnie australienne, et la question était, est-ce que c'est acceptable socialement? Pour répondre à cette question, il faut des psychologues qui sont allés sur le terrain, il faut des géographes, des historiens, des droits, du droit privé et public, également des géologues, des économistes et des sociologues. Vous voyez donc, on a une palette maintenant de compétences qui est tout à fait différente, et le géologue avec son petit marteau qui était tout seul et qui faisait des géosciences, eh bien maintenant il faut qu'il ait non seulement derrière les géosciences de la géophysique, de la géochimie, de la géologie, ce qui est assez classique, mais il doit avoir également des technologies minières, comment on va exploiter ça de manière propre, ce qui veut dire donc avoir des compétences en logistique, en communication, en innovation. Il va avoir besoin de capitaux, et là, ça prend à ce moment-là des gens en géopolitique, ça c'est du québécois, excusez-moi, ça nécessite des éléments de macroéconomie, et il lui faut également des bons éléments de gestion, et derrière les éléments de gestion, il y a des communications, du droit, de la gouvernance, une approche de la responsabilité sociale et environnementale, des éléments de sociologie, d'anthropologie, d'histoire. On ne va pas travailler en Nouvelle-Calédonie comme on irait travailler en Chine ou dans le Larzac. Évidemment, de la gestion des ressources humaines. Donc, vous voyez que c'est devenu un homme orchestre beaucoup plus complexe. Et la question qui se pose, c'est comment on va former ces gens-là? Est-ce qu'on doit former seulement des géologues ou est-ce qu'on doit former des assemblages? Autour du développement durable, l'économie, l'environnement et la société, eh bien, on a des compétences techniques autour de l'économie et de l'environnement, mais il nous faudra également avoir des compétences du point de vue social. Et donc, on est là face à un défi de formation extrêmement clair, jusqu'où on peut étirer les compétences, jusqu'à quel niveau on peut aller pour des gens qui vont être des hommes d'orchestre. Alors, il y a des formations qui commencent à être innovantes. Je vais vous donner deux exemples. On a créé, par exemple, au Québec, le premier MBA, un Master en Business Administration, un certificat de gestion combiné des aspects miniers. Les gens qui font de la gestion, ils vont faire également des mines, ils vont être capables d'avoir tous les enjeux en même temps. Okay. Ça, c'est nouveau, c'est les premiers qui sortent, ça fait 4 ans qu'on fait ça. On voit bien également que dans plusieurs endroits, en particulier en France, il va falloir combiner les enseignements de géosciences avec des environnements de gestion et également des environnements de sciences humaines. Donc on a vraiment ces éléments-là à faire. En conclusion, bien, le premier élément, c'est comme le diraient les Chinois, les défis sont des opportunités, okay, ça c'est, on le sait tous. On a des nouveaux types de gisements pour répondre aux besoins, on a des nouvelles manières d'explorer et de représenter le monde, on a de nouvelles valeurs à acquérir pour l'industrie minérale. On a déjà eu une ouverture vers l'environnement, il faut maintenant qu'on ait une ouverture vers l'essence sociale. Et il faut vraiment prendre compte que la demande qui nous est faite par la société et par les gouvernements, ça fait partie du panorama que va avoir l'industrie minière dans les années qui viennent. Merci de votre attention.